Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour Florent, bonjour Benoît.
Bonjour Constance.
Je suis ravie que vous m'ayez proposé votre témoignage concernant je sais pas si on peut dire votre GPA ou vos tentatives de GPA parce qu'elles ont été nombreuses. Je pense que c'était un témoignage nécessaire à enregistrer parce que tous les témoignages de GPA que j'ai enregistrés, mais en fait, tout se passe toujours nickel. C'est vraiment le fil rouge et il n'y a aucune accroche ou anicroche sur le parcours. Et un jour, Florent est venu vers moi en me disant, mais ça se passe pas toujours comme ça, en fait. Donc, je me suis dit, il va falloir que j'enregistre parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls à vous être retrouvés dans une situation similaire. Et c'est important de témoigner autour des difficultés qu'on peut rencontrer dans la GPA. J'arrête de parler. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter?
Oui, alors moi je m'appelle Benoît, j'ai 45 ans maintenant, donc quelques années de plus par rapport au début de notre parcours de GPA, mais ça on en parlera, et je suis avocat et je suis un des deux heureux papas d'un petit Gaston, 2 ans et demi.
Qui est trop chou.
Voilà, donc je suis Florent, l'autre papa de Gaston, j'ai le même âge que Benoît, et effectivement, je te suis depuis un moment par mon métier aussi, puisque j'ai l'occasion d'être un petit peu au contact de la communauté. Et voilà, effectivement, j'ai eu très tôt conscience/envie de témoigner avec deux un peu disclaimers au début pour dire que d'un côté, tout témoignage qui vient dire attention, la GPA, c'est pas toujours rose. J'ai toujours eu envie de le faire et en même temps peur qu'il soit exploité.
Bien
comme
sûr.
Étant par les Antilles, alors que c'est une GPA magnifique qu'on a faite et tout ce qui est plus encadré, tout ce qui est plus volontaire, donc toutes les critiques anti-GPA ne trouveront pas prises dans notre témoignage. Enfin, peut-être une partie, on verra. Et puis un deuxième élément, c'est d'abord elle se termine bien puisqu'on a effectivement un petit Gaston qui fait notre bonheur, qui fait aussi. Notre fatigue, mais même notre bonheur.
C'est que du bonheur.
Oui. Donc ça termine très bien. Et puis surtout, c'est ce que tu disais en début en disant j'ai que des témoignages où ça se passe très bien. Il faut quand même continuer à dire, malgré notre témoignage, que la statistique, elle est très clairement en faveur de ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que il faut dire s'il y a des futurs papas qui écoutent que mon témoignage, notre témoignage, il n'a pas pour but de dire attention, ça va être plus compliqué que ce qu'on vous dit. Non, il y a toutes les chances que ce soit aussi smooth et aussi facile parce que bizarrement, la GPA c'est facile le process pour les parents, contrairement à des couples de femmes par exemple. Nous, on ne fait que suivre. Alors c'est psychiquement extrêmement intense. On a des émotions lourdes. Mais les démarches sont faciles. Dès lors qu'on se lance dans la GPA, on suit un process, nous, en tant que papa. On se passe loin et dans les mains d'autres personnes. Donc, c'est un process qui est facile et c'est un process qui, scientifiquement, est ce qu'il y a de plus performant dans toute méthode de conception confondue. Les méthodes naturelles, ou les méthodes médicales, c'est parmi les méthodes médicales la plus performante puisque tout est encadré / contrôlé du don du sperme au choix des des ovocytes, à la conception des embryons, l'implantation au bon moment dans l'utérus d'une femme qui elle-même présente toutes les garanties d'avoir été sélectionnée, des critères d'âge, des critères de fertilité qui ne sont pas forcément présents dans le cas d'une PMA pour un couple de femmes où la femme qui veut avoir le bébé, c'est elle. Donc, elle fait avec ses propres contraintes.
Complètement. Et son propre âge aussi.
Et son propre, voilà, son propre âge et son propre, peut-être, plus ou moins de fertilité. Donc là, la GPA, c'est une méthode qui est ultra performante et donc qui explique que ce soit si facile pour la plupart des couples et la plupart réussissent du premier coup. Ouais. Et donc, c'est scientifiquement assez normal que ça marche du premier coup. Donc vraiment, l'objectif de notre témoignage n'est pas de dire « Attention les amis, vous allez galérer ». Non, vous allez sûrement pas galérer.
Mais ça peut arriver.
Mais ça peut arriver. Et alors, c'est justement parce que la plupart des gens ne galèrent pas que pour ceux qui galèrent, c'est difficile. Nous, on a été, et comme beaucoup, j'imagine, de tes auditrices qui ont eu la difficulté de voir leur copine avoir des enfants et pas elle, eh ben nous, on a dû... On a affronté le fait d'être les seuls dans notre entourage plus ou moins proche, c'est-à-dire que même dans les témoignages qu'on avait dans les associations, c'était pas que des amis, les seuls pour qui ça a été difficile. Et donc, on est passé par plein de phases. Et justement, je voulais un peu témoigner du fait que, tous ces aléas de la grossesse, les hommes le subissent aussi. Je parle des échecs, des fausses couches, des attentes, des espoirs, tout ça, les hommes le subissent aussi et pleurent aussi quand c'est nécessaire avec évidemment, une nuance de taille, c'est que nous n'avons rien vécu dans notre corps. Donc, par rapport à une femme, il est évident qu'on a ça en moins. Et c'est peut-être c'est une difficulté de moins parce que nous avons pu vivre la même chose, Benoît et moi, puisque nous sommes deux hommes. Et que, alors que pour une femme, dans un couple hétéro, mais même dans un couple de femmes, il y a certainement nécessairement une petite différence de ressenti entre la femme qui porte et l'homme qui ne porte pas, ou même entre la femme qui porte et sa femme qui ne porte pas. Et nous, on a eu cette chance de ressentir les mêmes choses, puisqu'on était au même stade.
Donc au même niveau, ouais.
Même niveau. Donc ça, c'est peut-être une force qu'on a eue de ne pas avoir à se dire « tu ne peux pas me comprendre ».
Oui.
On s'est compris, même si on a ressenti les choses différemment, mais au moins on a vécu ça. Mais pour tout le reste, on s'est rendu compte qu'il était difficile d'imaginer que des papas aussi, ou des futurs papas aussi, pouvaient... Beaucoup souffrir, être dans une attente qui suspend tout. Et voilà. Et donc, moi, je voulais en témoigner aussi, et puis aussi témoigner de certaines difficultés de relation dans la gestion, de la relation avec les agences, les mères porteuses. Voilà. Ça n'est pas toujours rose, même si c'est toujours encadré et ça s'est toujours bien passé. Mais ça n'est pas facile.
Je précise juste ici que c'est bien toi, parce que je pense qu'on va reconnaître ta voix aussi, qui a enregistré avec moi plutôt autour des questions juridiques liées à l'homoparentalité. C'était dans la saison 1 de mémoire et dans la saison 2. Je crois qu'on avait fait 2 podcasts.
Je ne sais pas.
Je revérifierai tout ça. Donc voilà, donc c'est Maître Berdo.
Voilà, bonjour.
Voilà. Alors du coup, on va juste commencer. Donc là, vous êtes présenté. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous vous êtes rencontrés? Parce qu'évidemment, il y a forcément une histoire d'amour autour de tout ça.
C'est vrai. Il faut s'en rappeler. C'est difficile.
Que c'est difficile des fois.
On s'est rencontrés de manière extrêmement classique, puisqu'on s'est rencontrés dans un bar assez connu pour les Parisiens, qui est le Rosa Bonheur, autour d'une bière et d'une deuxième et d'une troisième. Et puis, plus de...
En
12 ans, je ne sais même plus.
Septembre 2011.
Voilà, septembre 2011, après 12 ans, on ne se quitte plus. Voilà. Une chose très classique, hein, vraiment, pas du tout.
Ouais, très classique. Ouais. Tu vois, vu que vous êtes tous les deux avocats, je m'étais dit peut-être...
Benoît est devenu avocat récemment dans le cadre de notre changement de vie, bébé déménagement province. Voilà.
D'accord, oui, parce qu'effectivement, vous avez quitté la région parisienne, comme beaucoup de Parisiens, et ça se comprend, pour venir dans le sud.
Exactement, voilà. Sud-ouest.
Le vrai sud, le sud-ouest, quoi. Je me fais des ennemis. Pense,
hein, c'est pas moi qui l'ai dit.
Par contre, c'est pas forcément le sud où il fait beau, mais c'est le vrai sud. Mais c'est le vrai sud.
Ah non, c'est le sud breton.
Voilà.
On a le même temps à Bordeaux, hein, je peux rien dire.
Ouais.
Il pleut énormément, le taux d'humidité est très élevé, on est presque dans les tropiques. Sans le soleil. Bref. D'accord, et donc du coup, à partir de... En 2011, vous aviez tous les deux notions de votre côté, chacun de votre côté, que vous aviez envie d'avoir des enfants ou c'est venu sur le tard?
Alors, on était très différents sur la question. En ce qui me concerne, c'était une envie qui existait depuis... longtemps, presque toujours, hein, j'ai mes premières, mes années, après mon adolescence, où mon mes prises de conscience de mon homosexualité ont été liées à un renoncement à la paternité qui est revenu petit à petit. Mais ça, en fait, quand j'ai rencontré Benoît, ça venait de revenir. Je sortais d'une relation longue, stable, très bien, mais bon, plus jeune. Enfin, je sortais déjà depuis quelques années. Et puis, ça faisait à nouveau quelques années que j'étais célibataire. Je me disais, bon, l'amour ne revient pas. Bon, bah, c'est une chose, ça reviendra peut-être plus tard. Mais je ne veux pas me retrouver... Alors, dit comme ça, je me disais, mais qu'est-ce que j'étais jeune. Je ne veux pas me retrouver à 40 ans. non pas sans avoir d'enfant, puisque c'était pas un désir impératif, genre je veux un enfant ou rien. C'était, je ne veux pas à 40 ans me dire, ah, je n'y ai pas réfléchi. Et souvenons-nous, donc là, on a 45 ans. Donc moi, je me suis dit ça vers 30 ans, il y a 15 ans, la GPA, on en parlait, mais pas beaucoup. Mais on en parlait un petit peu. Et justement, je m'étais dit, j'avais conscience que je ne voulais pas que dans 10 ans, les choses aient évolué, mais que moi, je sois passé à côté de la réflexion sous prétexte que qu'est-ce que c'est que ça, la GPA, ça a l'air complètement fou. Donc, j'avais commencé ma réflexion de comment on fait pour avoir un enfant quand on est homo. Et donc, j'avais ce désir. Néanmoins, quand j'ai rencontré Benoît, évidemment, le désir, enfin, c'est pas évident, enfin, j'en sais rien, mais c'est passé comme ça. Le désir, il est reparti, si je puis dire, où, ah bah voilà, je rencontre quelqu'un. Donc, ma réflexion solo, elle est plus solo, et donc, bah, presque, elle est plus à l'ordre du jour, parce que j'ai rencontré quelqu'un, on reconstruit quelque chose, nous deux. Je savais que j'avais cette réflexion, et j'en ai parlé très, très vite à Benoît, mais comme étant, tiens, voilà, moi, je réfléchis à ça. Bah, c'est, si ça te dit d'y réfléchir, mais je sais pas comment dire, c'était pas devenu, enfin, ça n'a jamais été, moi, je veux un enfant, donc je te préviens, si on se met en couple, j'ai un enfant. Non, ça a toujours été, j'ai eu ce désir. Si ça t'intéresse, réfléchissons ensemble, et Benoît te dira comment lui, il s'est mis à réfléchir. Mais donc, pendant longtemps, ça a été, oui, j'avais cette réflexion, on y réfléchit ensemble, on y réfléchit, puis on n'y réfléchit plus, on y réfléchit, puis on n'y réfléchit plus. Donc, c'était pas le désir, impératif qui fait que si tu ne veux pas d'enfant, ça ne marchera pas entre nous.
Oui. Tu laissais la chance à ton, entre guillemets, tu laissais la chance au couple, et puis ça vient, quoi.
Oui, c'est une évidence que le couple étant là, et alors, Benoît va faire le fierro en disant que ce n'était pas son sentiment, mais moi, mon sentiment très rapide a été que bon, bah, c'était évident, Benoît et moi, que ça allait durer longtemps. Donc, ça revenait sur devant la scène, et tous les autres projets que je pouvais avoir eu en perso devenaient, soit ils s'adaptent à notre vie de couple, soit ils ne s'adaptent pas, projet. Mais ça devient tout de suite le seul qui fait que le reste va s'adapter ou non autour. Sauf la présence de mon chat, bien sûr, que j'ai imposé à Benoît, et là, ça ne pouvait pas se discuter.
Non, mais la présence des chats est indiscutable.
Ouais, malheureusement. Moi, je pense que j'avais fait un peu une croix là-dessus, en me disant que c'était pas compatible avec le fait d'être gay, d'avoir un enfant. C'est vrai que la GPA était très peu connue. Je crois qu'on s'est rencontrés, le mariage pour tous n'existait pas.
Non, je te confirme.
Donc, il y avait quand même un contexte qui faisait que c'était pas trop dans ma réflexion. Et je pense que foncièrement, je me voyais pas élever un enfant avec un. En fait, je pense que j'avais un petit côté avec un homme, un petit côté tradit. Voilà, et qui a un peu ressorti parce que bon, Florent m'a challengé et je me suis dit, il y a un point sur lequel j'adhérais, c'est qu'effectivement, on voulait mieux réfléchir, tant qu'on était relativement jeune, à cette question pour pas se retrouver trop tard en se disant, merde, on a raté le coche. Donc ça, moi, j'ai tout de suite voulu me challenger. Enfin, quand Florent a posé le sujet sur la table, je me suis dit, oui, effectivement, il faut quand même que je me challenge pour savoir quelle est mon envie parce que, en fait, je m'étais pas trop posé la question, j'étais parti d'un postulat que c'était pas possible, quoi. Et en fait, je sais pas si on y reviendra, mais j'ai eu un certain nombre de blocages, en fait, sur un certain nombre de sujets éthiques. Tout d'abord, on a envisagé les différentes possibilités. Et on en a écarté très vite d'un commun accord de très nombreuses. L'adoption, en tout cas moi, ça me semblait très long et très compliqué. Et je pense que j'avais aussi le côté envie de transmission. Je suis fils unique, donc je pense que j'avais un petit côté ligné que je voulais
Oui, c'est surtout ça. Dans mon souvenir, c'est surtout ça qui fait que ça a été très rapide le choix à la GPA.
Oui, mais bon, je ne suis pas sûr que ça aurait été un point bloquant final, mais en tout cas, ce n'était pas l'option la première, surtout à cause du temps. Et la deuxième, c'était la coparentalité. Et pour moi, ce n'est pas du tout le même projet quand on a un enfant avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas seul à prendre les décisions. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas les mêmes. Comment dire C'est déjà pas facile d'élever un enfant. À deux et à plusieurs, je trouve que c'est encore plus compliqué. Alors, il y en a qui réussissent, c'est très bien, mais je pense que c'était pas pour moi. Et puis le rôle de l'autre, même symbolique, dans le couple, est pas le même. Donc Donc voilà, ça m'a aussi écarté rapidement. Et donc, il restait la GPA. Et là, moi, j'avais des blocages sur les côtés un peu éthiques, sur le côté exploitation. Est-ce que c'était une exploitation de la femme, liberté, son corps? Et un point beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec la psy, c'était le fait qu'il n'aura pas de maman. Le fait qu'il n'aura pas de maman. Ouais. Et le fait même de verbaliser ça me mettait mal à l'aise. Donc j'ai beaucoup travaillé, en fait. J'ai beaucoup challengé à ce niveau-là. Et en fait, je me suis lancé. Je dis, bon, qu'on y va. Alors même que je n'avais pas forcément tout réglé à ce niveau-là, parce que je voyais que du côté de Florent, il y avait un manque quand même qui commençait à s'installer. Et qu'au final, je me suis dit, je ne pense pas que je regretterais d'avoir un enfant. Voilà. Je regretterais peut-être certains aspects de ma vie célibataire ou en couple sans enfant.
C'est sûr. Et ça, c'est confirmé. Et c'est confirmé.
Définitivement. Et je ne peux pas regretter le fait d'avoir un enfant. Ouais. Donc, on est parti là-dessus.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis autour de l'inquiétude que tu as pu avoir que cet enfant n'ait pas de maman. Que nous, on pourrait avoir, femme lesbienne, autour du fait que l'enfant n'a pas de papa. Moi, j'avoue que j'ai pas été traversée par cette inquiétude. Mais je pense que, enfin, tu vois, c'est important de le poser sur la table et de se dire, est-ce que ça va poser un problème? Parce que, on a tendance à militer en disant, non. Il n'y a pas besoin d'un membre de sexe opposé pour élever un enfant. C'est vrai, il n'y en a pas besoin, ça se vérifie au quotidien. Mais forcément, la question, elle se pose parce qu'on est issu d'une société hétéronormée et on nous a toujours dit pour faire un enfant et l'élever, il faut un papa et une maman.
Et en fait, moi, au-delà de ça, ce qui m'angoisse un petit peu de manière anticipée par rapport à l'avenir. Parce que là, il a 2 ans et demi, ça se passe bien, ça se pose pas. Mais c'est la différence, en fait. Pour moi, on lui a imposé une différence.
Complètement.
Donc, par rapport à ce qu'il n'a pas demandé.
Et exactement. Du coup,
je me suis dit au final que quoi qu'il en soit, l'amour résoudra tout. Donc, j'espère que ça sera le cas. Mais je sais qu'on va, enfin, moi, donc, j'anticipe qu'on va passer par des moments difficiles sur la gestion de la différence de Gaston par rapport à ses copains. Parce que l'adolescence, je pense qu'on n'aime pas être différent. Il faut qu'on soit dans un moule. Et je sais qu'on va se confronter à des difficultés. Et je suis optimiste sur le fait qu'on réussira à les surmonter. Ce qui est peut-être une différence par rapport à avant, je veux dire. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas non plus cacher les yeux sur ce n'est pas un bon sujet. C'est un sujet qui n'est pas insurmontable, mais c'est un sujet.
Ouais, et c'est un sujet.
Et les couples homosexuels, notamment de papa, il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de recul sur la façon de gérer l'action.
Bah, voire pas. Et tu vois, bah, très peu. Et tu vois, même nous, lesbiennes, là, moi, je suis directement confrontée, enfin, je vais y être là d'ici très peu de temps avec ma grande, puisqu'elle va avoir 11 ans et qu'elle va rentrer au collège. Et là, je sais que les choses, elles vont changer. Et évidemment, moi, c'est, en fait, je crois que j'avais pas d'inquiétude pour la petite enfance, effectivement, mais c'était plus ça. L'adolescence.
Et
c'est vrai, tu sais, effectivement, tu as raison. Moi aussi, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est que ces enfants, quelque part, ils ont pas demandé à avoir une différence. Et ils vont la subir. Donc, à nous d'arrondir le plus possible tout ça pour que, en tout cas, de leur donner beaucoup de force dans leur petite enfance, beaucoup de fierté, pour qu'ils arrivent à passer outre et à se sentir légitimes. Après, tu vois, je vois là justement Juliette, elle est hyper populaire à l'école. Elle est hyper populaire alors qu'elle est dans une école privée catholique et qu'elle a deux mamans. Et en fait, juste cette popularité, je pense que ça va l'aider. En fait, c'est marrant, quoi. Et puis alors les triplés, autant te dire que la popularité, bon bah, elle s'est faite toute seule, hein. donc ça va l'aider. C'est vrai que je pense que le caractère de l'enfant joue aussi. Et finalement, j'ai pas l'impression, même si je suis inquiète, j'ai pas l'impression que ça va être compliqué. On verra.
Ouais, moi, j'avoue que c'était des inquiétudes que j'ai pas eues, que j'ai pas pour l'instant. J'étais très droit dans mes bottes sur le fait que le premier choix de parent, c'était de faire l'enfant dans la situation dans laquelle on était. Donc, c'était ma première décision de parent, c'était de le faire comme ça. Et qu'il allait avoir toute une vie faite de mes choix, toute une éducation faite de mes choix, et que je lui dirais, c'était notre choix. Alors, je lui expliquerai et je l'accompagnerai dans le fait qu'il va sûrement, peut-être effectivement, c'est sûr, constater des différences, mais ça ne m'a vraiment jamais ni fait reculer, ni même fait freiner, enfin ni même fait ralentir, pardon, ni inquiéter, parce que j'assumais que c'était le postulat de base et que l'explication, le pourquoi, c'était ah bah parce que c'était ce qu'on voulait faire.
Ouais.
Donc oui, c'est tout à fait un choix égoïste comme le principe de faire un enfant. Donc ça, je l'assume tout à fait. C'est pas du tout une critique pour moi, mais c'était comme ça. Pareil pour la question du choix de l'anonymat et tout. Moi, tout alors que je sais très bien que le débat est désormais, enfin plus pas que le débat d'ailleurs, même la loi maintenant est vraiment pour l'accès aux origines. Et c'est le choix qu'on a fait pour Benoît. C'était très important qu'il puisse avoir accès aux origines de la donneuse. Donc on a pris des options.
Semi-anonymat,
c'est-à-dire qu'on ne connaît pas son nom, mais bon, ça vaut, voilà, des choses qu'on connaît aussi. Mais en tout cas, il aura accès à l'information s'il veut, puis on a des photos. Mais, alors, pour le coup, c'était très important pour Benoît, donc on l'a fait comme ça. Mais moi, j'aurais parfaitement assumé l'anonymat. Alors, en me trompant peut-être que pour Gaston plus tard, et d'ailleurs, avec ce qu'on lit dans les débats, ça aurait certainement été une difficulté. Il a l'air d'aujourd'hui de faire un peu consensus que de ne pas avoir accès à ses origines, c'est une difficulté. Donc, je ne regrette pas du tout qu'on ait fait ce choix et que ça puisse lui être offert. Mais j'étais très préparé à assumer qu'on ait fait comme premier choix pour lui qu'il n'ait pas, qu'on n'ait pas accès à ses origines. Ça ne me questionnait pas. C'était notre choix d'autorité parentale. Initial, ça aurait été de faire ça. Donc c'est vrai qu'on s'est pas du tout posé les mêmes questions et qu'à un moment la discussion elle patine un peu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit pendant plusieurs années, puisque l'on s'est rencontré en 2011, on a très vite discuté de la question et j'ai vu, en prenant mes notes, les premiers contacts qu'on a eu avec la PGL. Alors moi j'ai toujours été impliqué dans la PGL en tant que juriste, mais en tant qu'adhérent et en tant que tiens je viens me renseigner sur la GPA parce que je connaissais beaucoup de choses en droit, mais en pratique. Comme d'ailleurs pour tous les gens qui se lancent dans la GPA, je continue à le dire, le plus difficile du process, c'est l'avant-process, c'est-à-dire c'est les informations, c'est qui on contacte, comment on se lance. Et quand j'ai des clients maintenant qui viennent me voir, je leur dis, oh là là, quand vous en êtes aux questions, vous posez des questions sur l'affiliation, dites-vous bien que tout est beaucoup plus facile que ce que vous avez fait. Le plus dur, c'est alors, qui on va contacter pour dire bonjour, on voudrait faire un enfant. Ça, c'est le plus dur. Et donc, on a passé 5 ans à aller déjà voir la PGL, à rencontrer, parce qu'à l'époque, c'était encore plus clandestin, à rencontrer une agence qui était très connue en Amérique dans un hôtel avec des fausses informations parce que tout le monde se cachait. Et ça, dès 2012 ou 2013. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi en termes de... Ah, Benoît faisait des tableaux pour ou contre. Et moi, je lui disais, attends, c'est simple, tant qu'on fait des tableaux pour et contre, ce sera forcément contre. Parce que ce qu'il y a de plus, la seule chose qu'il y a dans la colonne plus, c'est le bonheur d'avoir un enfant. Et j'ai parfaitement conscience qu'il y a beaucoup de négatifs. Et qu'en termes de bullet points, il y aura toujours plus de négatifs qui peuvent justifier, c'est ça notre discussion, qui peuvent justifier que du coup, on décide de pas en avoir. Mais à un moment, il faudra se dire, bon allez, l'envie d'avoir un enfant et le bonheur potentiel d'avoir un enfant suffit et voilà. Et donc c'est comme ça, à un moment, et ça a été vraiment ça, hein, ça a été comme dans les films, après le mariage, voyage de noces, belle vue sur le Mékong, le coucher de soleil. Et alors en vrai non, le déclenchement c'était que c'était fin 2017 ça, donc c'était les primaires de droite où Fillon a été désigné.
Ouais.
Et là autant moi j'étais préparé à ce qu'on décide de ne pas avoir d'enfant. Alors je sais pas comment je l'aurais vécu, mais j'étais préparé à ce qu'on décide de pas avoir d'enfant. Autant j'angoissais à mort à l'idée que ce ne soit pas possible d'avoir un enfant.
Ouais, que ce soit pas toi qui décides de ne pas en avoir, voilà. Mais quelqu'un
et
qui décide.
Tant pour les questions politiques que d'argent. Ah, parce qu'évidemment, la GPA est question d'argent. Et de façon un peu magique, je me disais, oh, on y arrivera. Alors, on y est arrivé, en faisant beaucoup de choix et difficiles, mais on y est arrivé. Mais ça m'angoissait pas du tout. Et d'ailleurs, si Benoît m'avait dit, non, financièrement, on pourra pas, j'aurais explosé en vol. C'était pas possible qu'une urgence matérielle nous l'empêche. Et alors, c'était encore moins possible qu'une potentielle loi. Donc, on était en novembre 2000, notre voyage de noces, c'était novembre 2017. Donc, novembre 2016, pardon. Puisque l'élection, c'est en 2017. Novembre 2016. L'idée que 6 mois plus tard, potentiellement, il y a un président, qu'on donnait absolument gagnant à ce moment-là, qui avait fait de la GPA, enfin, je sais pas si on s'en souvient, mais pourtant, la GPA, c'est un petit sujet, qui concerne un petit nombre de personnes, mais c'était un sujet, qui rassemblait, les Antilles, à ce moment-là. Et donc, la GPA, était vraiment un de ses chevaux de bataille. Il allait vraiment renforcer les interdictions. Et donc, l'idée que ce soit possible qu'on aille vraiment en prison si on le fasse, c'était déjà interdit avant, mais il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de réelle sanction. Alors là, moi, ça m'angoissait, et c'est ça, pendant le voyage de noces, puisque je vois très bien où on était quand il a été élu, qui m'a obsédé pendant 15 jours, et qui fait qu'un soir, ça c'est vraiment fait comme dans les films, j'en ai pleuré, en disant, Benoît, je crois qu'on est en train de passer à côté, parce que Benoît hésitait, et attendait un déclic qui ne venait pas. Mmh. Et je lui dis, en fait, on est en train de passer à côté, et on va nous l'interdire avant qu'on l'ait décidé. Et Benoît, comme d'ailleurs dans plein de décisions dans notre vie, il est switché et dit, bon, écoute, je n'arrive pas à avancer, en tout cas, j'avancerai pas plus, je vois que toi, t'es décidé, et cela. Exactement ce qui t'a dit tout à l'heure, bon, je ne sais pas si je regretterais de ne pas avoir d'enfant, je risque de regretter de ne pas avoir d'enfant, alors qu'a priori, bon, ça serait peut-être dur, mais je ne regretterai jamais d'avoir un enfant, allons-y. Et alors, la force de Benoît, c'est que le « allons-y » veut dire « allons-y ».
Maintenant.
Ah bah, on y va, et il n'y a jamais eu le lendemain, en fait, j'ai réfléchi. Et donc là, en cette fin de voyage de noces, c'est parti, on a pris les premiers contacts avec des référents à la PGL, qu'on a rencontrés en sortant de l'avion, comme ils habitaient dans l'Oise, directement, on est allé déjeuner dans une zone industrielle de Roissy, dîner avec nos valises de un mois de voyage de noces.
Et nos 7 heures de décalage horaire.
Et donc, c'était commencé tout de suite. Et on a pris les premières notes. Quelle agence, quelle clinique, qu'est-ce qui se fait? Parce qu'en GPA, il y a beaucoup de modes. Qu'est-ce qui se fait en ce moment, le duo clinique, agence, machin, Canada, États-Unis, quel pays? Ça, c'était en sortant de l'avion à Roissy, fin 2016. Et là, tu vois, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. Donc, en fait, on va commencer à parler de notre parcours maintenant. Et là, le parcours avec les premiers contacts, il a commencé fin 2016 et les tout premiers emails envoyés après un mois de challenge, de « ok, nos amis et machin sont passés par telle clinique, nos amis machin sont passés par telle agence », il y a tellement d'agences et cliniques aux États-Unis, beaucoup moins au Canada, mais on peut pas contacter tout le monde. Donc en gros, on a fait le tour de nos connaissances pour avoir les 3-4 agences et cliniques du moment. Et en janvier 2018, on a envoyé les premiers mails. Bonjour, on est Florent et Benoît, on aimerait bien faire un Skype pour parler avec vous. Et
donc, ça a 2017, en janvier 2017.
Ouais, janvier 2017. Tu vois, j'ai dit que j'avais beaucoup les dates, tout est noté, mais janvier 2017, tout à fait.
Oui. Ouais, ouais, donc vous avez, voilà, une fois que c'était lancé, vous avez droppé.
Ah bah, ça y est. Ah bah, on n'a jamais, en fait, depuis janvier 2017, enfin, même depuis fin 2016, mais en vrai, depuis les premières démarches de janvier 2017, jusqu'à la naissance de Gaston, donc en novembre 2020, ça a été, et pourtant, même avec le recul, ça me semble court, alors que quand même, c'était long. Ça a été 3 ans et demi. Là, pour le coup, la GPA, c'est devenu le sujet principal. Enfin, c'est notre projet, on y va.
Ouais, ouais. Et 3 ans et demi, on le sait, hein, 3 ans et demi d'attente, c'est sur une conception, en plus sur une GPA, où, comme tu l'as précisé, bah tu sais que tu mets toutes les chances de ton côté, que tout est monitoré. Bah c'est long. C'est très très long.
Alors voilà, c'est l'attente est longue et puis bon.
Ce qui fait tenir pendant un certain temps, c'est le fait d'être persuadé que ça va marcher.
Oui, bien sûr.
Et au moins, mais quand on a quand même eu un moment, mais quasiment à la fin, donc où on a vu.
Oui, on a vu que ça pouvait ne pas marcher, que ça pouvait ne pas marcher.
Et c'est là où ça a été le plus dur, je pense.
Oui, oui, c'est ça. C'est les attentes, les déceptions et. Et le sentiment à un moment ou à un autre, donc là, voilà, on va venir dans les détails, de irrationnel, de « ah mais ça se trouve, on est maudit ». Ça se trouve, ouais. Nous. Parce qu'on enchaînait les « ah oui, pas de chance », quoi. Qui font que les gens arrêtent de dire « non, mais ça va marcher la prochaine fois ». Parce que manifestement, ça marche pas et qu'il n'y a pas d'explication. Bon, bah, s'il y a bien des statistiques qui ne sont pas à 100% mais à 99%, bah, il y en a bien 1% qui marche pas. Et là, nous, clairement, on était dedans. Là. Et encore pourtant… bon, je sais pas comment tu veux qu'on te raconte ça, mais pourtant il y a des obstacles qu'on n'a pas eu. Il y a d'autres gens qui vivent d'autres choses encore. Nous, par exemple, dans tout notre process, on n'a jamais eu à vivre la perte d'un bébé dans une grossesse avancée. On a eu des fausses couches au début. Alors, ce qui nous a fait nous rendre compte que le discours « allez, c'est pas grave, ça va marcher » est horrible. Et le discours que j'ai eu avec des copines, je pense, quand j'étais plus jeune, puisque moi, bah voilà, on a des enfants de 15 ans après nos amis. Donc sûrement, il y a 15 ans, j'ai dû dire à des copines, oh, t'inquiète pas, ça marchera la prochaine fois. D'abord, je me rends compte que je l'ai dit que aux copines et pas à leur mari ou à leur copain. Déjà, le mari, c'était, bah, toi, tu dois sûrement rien ressentir. Et la fille, c'était, bon, tu dois ressentir, mais enfin, bon, ouais, ça va marcher la prochaine fois, ça arrive à tout le monde. Donc bon, on a vécu ça. Mais c'est vrai que par contre, dans les différents drames, nous, on n'a jamais vécu de perte de bébé à 3, 6 ou plus de mois de grossesse. Donc ça, on va dire que ça pourrait être encore plus difficile.
Oui, complètement.
Et, Voilà, donc janvier 2010. Alors, surtout, tu me coupes quand tu as des questions, parce que sinon, je peux parler pendant une heure et demie.
Coupe-le.
Janvier 2017, premier contact. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout va très vite parce que c'est... Alors, donc, on a fait tout de suite le choix, nous, d'une GPA américaine ou canadienne, en l'occurrence.
Avec une agence.
Initialement canadienne, voilà, une agence au Canada.
Et de ma porteuse.
Une agence de ma porteuse au Canada et une clinique... États-Unis, c'était un peu le combo à la mode quand on l'a fait il y a quelques temps. Bon, ça se fait peut-être toujours, je sais pas. Enfin, ça se faisait beaucoup.
Et en fait, ils étaient couplés, Canada-Amérique.
Enfin, non, en fait, donc dans la GPA, t'as vraiment deux grands pôles. T'as la clinique de fertilité qui fait les embryons et les transferts, et t'as l'agence de GPA. Et que tu peux choisir
une agence
de mère porteuse. Tu choisis indifféremment. Et en Canada, il y a beaucoup moins d'agences. Notamment, il y en avait à l'époque une un peu monopolistique que tous les auditeurs de la GPA reconnaîtront. Donc, on n'a pas tellement hésité sur l'agence. Pourquoi l'agence au Canada? Bah parce que question de coût, c'était moins cher. Les mères porteuses, et ça, je pense que c'était plus pour nous rassurer. En tout cas, moi, c'est pour me rassurer. On dit que les mères porteuses ne sont pas rémunérées. Bon, d'abord, ce n'est pas vrai. Elles sont défrayées de façon un peu forfaitaire qui correspond quand même à des choses globalement inférieures aux États-Unis parce que tout est moins cher au Canada, mais ça représente globalement Non? Bon, un peu moins. Enfin, bon, c'était 22 000 $ à l'époque canadien, alors que la mère porteuse au Canada, aux États-Unis, elle a perçu 30 000 $ américains. Donc oui, c'est un peu plus, mais ça reste une somme d'argent qui est dans la même fourchette. Mm-hmm. Donc c'est pas vrai qu'elles sont pas du tout rémunérées. Mais bon, à l'époque, ça nous disait. Et puis quand même, Benoît a un lien, il a une cousine, qui est franco-canadienne, qui vit toujours au Canada. Donc on se projetait bien, on disait qu'il y avait un lien avec le Canada. Bon, bref, on avait fait ce choix-là. Et la clinique, bah, c'était la clinique performante du moment aux États-Unis, alors que les cliniques canadiennes avaient un moins bon retour, même si bon, ça, c'est difficile de quantifier parce qu'on a plein de copains avec qui ça a marché très bien du premier coup avec cette même agence canadienne qui pourtant a une réputation sulfureuse, et d'autres cliniques. Donc, on a pris ces contacts et on a fait les premiers Skype. En mode merveilleux, tout va bien, avec l'agence canadienne, la clinique américaine, et ça, c'était en janvier-février 2017, et tout est allé assez vite, puisqu'en avril 2017, on est allé faire le don de sperme en Californie, tout va très bien, on avance, on était même matché avec une première mère porteuse.
Oui, évidemment, la donneuse.
Ah oui, en même temps, la donneuse.
On a eu une petite difficulté, on avait choisi une donneuse, puis en fait, elle s'est rétractée...
Ça
nous a fait un petit coup, mais bon, c'était pas non plus grave ici. Mais après, on a trouvé une autre donneuse, la donneuse de Gaston. Et à partir de là, effectivement, les choses médicales sont allées assez facilement. Et on avait trouvé aussi rapidement, je crois, quand même,
la porteuse. Avril 2017, on avait tout.
Au Canada.
Avril 2017, on avait la donneuse.
En fait, on est allé très vite sur la première partie.
Voilà. En juin 2017, les embryons étaient faits. Alors, ça commençait en plus. Exactement comme on imagine, c'est-à-dire qu'on est allé quand même assez vite. On avait une équipe de foot d'embryons de bonne qualité. On sait qu'on partait bien. Ça, une des angoisses que beaucoup, déjà qu'on n'avait pas, de se retrouver avec deux embryons. Ça,
on avait énormément.
On a plein, à tel point que, donc aux États-Unis, dans la GPA, le test génétique préimplantatoire est très à la mode. Alors, pour les Américains, c'est à la mode pour choisir le genre de l'embryon, le sexe d'embryon. Ah oui, parce qu'en fait, on le voit dans les chromosomes, donc on choisit.
Bah oui.
On peut choisir. Donc, nous, on doit expliquer qu'on ne veut pas choisir. Tout ça, c'était notre choix, on ne voulait pas choisir. Mm-hmm. Et du coup, ils nous disaient, bon, pourquoi vous faites le PGS alors? Parce qu'ils ne nous ont pas poussé à le faire. Mais nous, on s'est dit, on a tellement d'embryons qu'il faut absolument qu'on élimine ceux qui n'ont aucune chance de s'accrocher. On ne va quand même pas faire 3-4 essais pour avoir notre bébé. Donc, vas-y, éliminons-nous tous les mauvais embryons. Comme ça, on ira directement vers le bas. Donc, c'était ça notre réflexion.
On va voir à quel point
c'était pas malin. Mais,
en tout cas, ça n'a pas été
suivi des faits. Mais bon, en juin 2017, donc, on avait les embryons top qualité, tout va bien, bien au chaud ou au froid en Amérique. On avait, donc, été matché avec notre mère porteuse. Et là, premier un peu conseil ou premier petit témoignage, à nos premiers Skype avec notre mère porteuse, on l'a pas senti du tout. On l'a pas senti du tout. Quand on s'est raccroché, on s'est dit, oulala, oui, enfin bon, après c'est très personnel, mais pour plein de trucs, on l'a trouvé pas concentré, on l'a trouvé un peu difficile d'accès.
Distante,
mais elle avait un peu froide, et en même temps bizarre, en même temps bon, son profil correspondait bien. Et en fait, première erreur et premier témoignage, on n'a pas osé dire non. Ça, il faut le savoir. Alors, c'était spécialement lié, vraiment, je prends beaucoup de précautions parce que beaucoup de gens peuvent avoir un ressenti différent, mais spécialement lié au choix du Canada et à cette agence en particulier, dont la directrice est un peu une sorte de grande gourou, on ne s'est pas senti autorisé à dire non parce que la pression du « vous n'êtes pas les seuls candidats », le discours très très clair dans la GPA, c'est pour ça que les anti-GPA, alors vraiment, il faudrait juste qu'ils discutent avec des gens pour comprendre, le discours est très clair. On est hyper loin de l'exploitation puisque c'est la mère porteuse, la reine, et c'est justifié, mais c'est la reine. D'abord, c'est sa grossesse, donc ça, il n'y a pas de problème que tout est fait pour que ça se passe bien. C'est son corps. Mais c'est elle qui choisit. Il y a tellement plus de candidats parents d'intention que de mères porteuses. C'est elle qui choisit. Donc, il n'y a pas d'angoisse sur l'exploitation. Et au contraire, nous avons eu tellement peur qu'on nous dise « Oh, dis donc, les enfants, vous faites les difficiles » et qu'on repasse en dessous, qu'on n'a pas osé dire non. Et ça, franchement... Alors, ça aurait pu marcher. Il se trouve que, en plus, physiquement, médicalement, ça n'a pas marché. Donc, on a changé après. Mais dès le début, moi, j'avais conscience que, ah zut, il y aura donc un point noir dans l'histoire de notre enfant. Ce sera la relation avec sa mère porteuse. Alors qu'évidemment, on s'est projeté, et c'est le cas aujourd'hui, mais on s'est projeté grâce au discours qu'on avait à l'époque sur « ce sera une super relation, vous verrez, ce sera la femme de votre vie ». Et ce qui fait qu'on est obligé de se challenger et de chercher les témoignages de ceux qui nous disaient « mais vous savez, c'est pas non plus votre meilleur ami, mais rassurez-vous, c'est pas grave, l'important c'est que vous la connaissiez, l'important c'est pas bien ». Or, on sentait que déjà, si grossesse il y avait, ce serait compliqué car elle nous balançait tout son stress au moindre truc, elle coupait Instagram, elle disparaissait des réseaux dès qu'il y avait un truc qui allait pas.
Parce qu'il y avait quand même,
l'angoisse.
Pour faire un petit peu plus court, il y avait quand même trois transferts.
Ah oui, tu veux vraiment que... Ah oui, tu fais un peu plus court, alors que moi j'étais à l'avant premier transfert. Oh là là là.
Mais non, mais parce que, je suis pas
non, mais t'as raison.
Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé dans les faits et le ressenti, j'imagine. Effectivement, on a quand même continué avec,
on a continué. Je sais pas si on le dit, parce que si elle écoute et qu'elle se sent visée, la pauvre. Non. Mais on a continué avec elle, parce qu'en fait, la question ne s'est pas posée pour nous. On ne peut pas dire non.
Et on est arrivé, je voulais un peu accélérer sur le timing, je veux dire, sur le déroulé. C'est parce que quand même, à la fin, mine de rien, malgré le fait qu'on avait eu 3 échecs, on a perdu quoi? Un an et demi,
non.
Peut-être? Combien de temps?
Non, moins.
Le timing, quoi?
Non, t'as raison.
À peu près un an, on va dire. Moi, je sais que j'ai été quand même soulagé que ça marche pas.
Ah bah clairement.
Quand
on nous a dit, écoutez, il faut changer.
Parce que la grossesse aurait été très compliquée à gérer. Et elle était un petit côté drama. Elle était très drama queen, si on peut dire. Et donc du coup, c'était pas facile à gérer.
Alors ça faisait trop de drama queen dans cette histoire.
Et non, c'est quand même pas une facile. Mais ça fait trop de drama queen cette histoire. Et moi, j'avoue que j'étais un peu soulagé.
Ah bah moi, j'étais hyper soulagé. Alors que quand ça s'est arrêté, ça voulait dire qu'on recommençait. C'est pas grave. Mais bon. Si on accélère, l'idée de notre témoignage, c'est aussi de dire voilà que ça peut ne pas marcher. Donc, avril 2017, tout est bien fait. Ok, on y va. Premier transfert, octobre 2017. Et là, nous, on avait fait le choix d'aller aux États-Unis pour assister au transfert, pour rencontrer notre mère porteuse une première fois. Sachant que ça se fait pas. Enfin, en gros, ce qui se disait beaucoup à l'époque, mais je sais pas pourquoi. C'était, on va au transfert, on va une fois pendant la grossesse pour l'échographie, puis après on va à la naissance. Bon, enfin, ça fait quand même beaucoup de voyages, mais bon, nous, il était quand même important d'aller la rencontrer, même si c'est symbolique, puisqu'on n'allait pas dire non 2 secondes avant le transfert, mais quand même de la rencontrer avant qu'elle porte notre enfant. Bon, la rencontre s'est bien passée, mais a complètement confirmé notre feeling. Il n'y avait pas de chaleur, c'était nous on en rajoutait là-bas, c'était terrible. Bon, transfert en octobre 2017.
Cette situation la rencontre avec la mère porteuse est une situation un peu bizarre, hein, de positionnement de chacun, vous êtes une parfaite inconnue à qui vous confiez la plus précieuse et avec qui vous êtes dans une intimité extraordinaire. Donc c'est quand même pas facile c'est très et le moins qu'on puisse dire c'est que elle était pas aidante. C'était difficile de faire le lien. Il y a aussi peut-être un côté anglo-saxon, parce que même avec la porteuse après, il y a ce côté un peu de... C'est quand même nous qui devons porter la relation pour que ça se passe bien. Surtout qu'avec Beverly, c'est très bien passé. Mais le début est vraiment pas facile.
Après, elle avait rien... Enfin, c'est une question de personnalité. On critique pas, c'était sa personnalité. Mais mon point était juste de dire, si vous le sentez pas, tant pis. tant pis. On dit non, je suis désolé, on ne le sent pas avec cette mère porteuse et on attend d'être rematché parce qu'on le sera peut-être dans 2 mois. C'est peut-être mieux que de vivre 1 an d'inquiétude et potentiellement d'avoir une relation après qui n'est pas celle que vous espériez pour votre fils ou votre fille. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Mais alors effectivement, donc premier transfert, bon, premier transfert, et comme beaucoup de nos petits camarades, premier test de grossesse positif, donc bah, évidemment, joie et en même temps, sorte de, bah oui, bah, dans notre vie, on a tout réussi le premier coup, évidemment qu'elle allait tomber enceinte du premier coup. Donc test positif, test urinaire positif, puis test
sanguin
positif aussi. Donc bah ça y est, c'est parti, on a acheté nos premiers livres de grossesse tout de suite quoi, et je me souviens en parler, on m'avait dit oh, attention, je dis, oh, ça va, mais enfin moi je suis très on va arrêter moi j'ai pas de problème à me projeter, pas de problème. Donc le côté faut se protéger en sommeil, c'est pas trop mon truc. Ça l'était pas. Donc on y va, on investit. Alors on en parle pas aux proches parce qu'on sait le coût des 3 mois. Oui, on sait que pendant 3 mois ça peut arrêter,
mais nous on sait,
mais nous ça va marcher quand même. Et puis, eh ben, malheureusement, je dis malheureusement, mais c'est grande normalité, à 2-3 jours après, j'ai un peu mal au ventre, petit saignement, bon, et deuxième test de grossesse qui montre la chute
des bêta.
J'ai oublié le nom de bêta. Donc la chute, bon, bah, donc grossesse s'arrête, bon, alors au point de vue médical, sans explication particulière et sans besoin d'explication finalement. Et là, évidemment, première grosse tristesse, même si on très vite rebondit dans le bon, allez, bah, oui. Il y en aura un autre, mais quand même. Et nouvelle déconvenue avec l'agence qui nous écrit, oh, écoutez, je ne veux pas avoir l'air insensible, mais ce n'est pas une fausse couche, parce qu'elle était très, attentive à ce qu'on écrivait sur les pages Facebook de la communauté de cette agence. Arrêtez les choses négatives, ce n'est pas une fausse couche, c'est une grossesse chimique. En gros, ça va. Et là, nous on a été choqués par ça, et puis on a découvert tout de suite ce que je lis beaucoup après dans le blog, l'invisibilisation du deuil lié à une fausse couche qui, certes, je ne mets pas sur le pied d'égalité ce qu'on a vécu et une fausse couche tardive, ou même d'ailleurs plus tard, après qu'on a entendu le cœur et tout ça, je sais que c'est pas pareil, je sais que c'est très habituel, et que pour plein de femmes, en fait, c'est même pas vraiment une fausse couche, c'est une grossesse dont on n'a pas connaissance, puisque nous tous, les familles homoparentales, du fait qu'on connaît la date de l'insémination, on se sent potentiellement enceinte ce jour-là, alors que si ça se trouve, nombreuses sont celles qui ne se sont pas rendues compte et qui ont eu un peu mal au ventre ou peut-être des règles abondantes et qui n'ont jamais su qu'il y avait un début de grossesse. Bon, tout ça, j'en ai conscience. Mais en fait, dès lors qu'on se projette sur...
C'est ça.
OK, il y a une insémination. Enfin, moi, c'était instinctif, j'ai calculé le terme immédiat. Donc cet enfant, il avait... Alors non, c'était pas un enfant, mais cette grossesse allait aller jusqu'au bout. Alors, ce qui nous a aidé à tenir, ce qui moi m'a aidé à tenir, c'est que j'ai toujours eu comme image, j'ai jamais considéré qu'on avait perdu des enfants dans les différentes sphères, puisque je me suis toujours dit que notre enfant était caché dans un embryon.
D'accord.
Et donc, pendant presque jusqu'à la fin du process, j'ai écrit un journal où je lui parlais. Lui, à lui ou à eux, parce que je savais pas si on aurait 1, 2 garçons-filles, mais je parlais. Et donc, après tout ça, c'était, ah, tu fais chier, t'étais pas caché dans le bon. Donc, j'étais très triste, parce que je m'étais projeté dans le fait qu'on l'avait trouvé. Mais j'ai jamais eu le sentiment de perdre un enfant. Donc ça, octobre 2017, et puis après, bon, on enchaîne sur un deuxième, donc d'abord très long, alors là, pour le coup, lié à sa complication, lié à son personnage, parce qu'elle ne voulait pas tomber enceinte en décembre, parce que cette fille était née en décembre. Elle ne voulait pas avoir d'enfant au mois de mai, parce qu'au mois de mai, c'était la période d'inscription à l'école et qu'elle ne voulait pas être dérangée par ça. Donc c'était quand même beaucoup de et puis non, mais je suis sûr que c'est un embryon garçon et mon corps ne peut pas porter de garçon. Enfin, donc elle nous balançait des trucs comme ça, qu'on devait gérer. Donc deuxième transfert n'a eu lieu qu'en février 2018, donc c'est 4 mois après. Or dans le process GPA, souvent ça va quand même plus vite, donc déjà nous on accumulait les retards. Bon, les médecins nous disaient écoutez, tout va bien. Deuxième transfert février 2018, là il a été simplement négatif. Bon, donc deuxième échec, mais pas de perte, mais deuxième échec. Et troisième transfert en mai 2018, qui là cette fois-ci a été annulé parce que le médecin disait écoutez, je suis pas hyper sûr de l'endomètre et tout, on le sent pas, et comme il y a déjà eu 2 échecs, il y avait un liquide, deux échecs, on arrête. Même si il n'y a jamais eu de, c'est à cause de tel critère, de telle réaction de l'utérus, il n'y a jamais eu de responsabilité, et on n'en cherchait pas, puisqu'on a bien conscience à quel point, dans ce domaine, il y a toute une partie de, écoutez, on peut pas expliquer. nous, on n'arrêtait pas de challenger, donc vous êtes sûr, c'est pas nos embryons? Non. Ah bon, mais les autres, ça marche premier coup, c'est des bons embryons, et pourtant, ça marche pas. Non, bah, ça, écoutez, bon. Et donc là, ils nous ont dit, écoutez, le process classique, après 3 échecs, c'est qu'on propose de changer de mère porteuse, parce que même si ça peut marcher au 4e, bah, d'abord, c'est sûr qu'elle, elle fait ça pour d'autres bébés. Autant une femme qui fait ça pour elle, elle peut peut-être assumer de faire 5, 7, 12, 12 essais, c'est son bébé. Mmh. Autant, bon, c'est sûr que c'est quand même très lourd, hein, le process. En temps, en termes de voyage, d'aller-retour pour elle et son mari, de gestion de ses enfants, de médicaments, d'émotions, parce qu'après tout, elle aussi, voilà, quand il y a eu la première fausse couche, clac, elle a coupé Instagram pendant plusieurs jours. Horrible pour nous, horrible. Enfin, Instagram, voilà. C'était bien, plus de lien avec elle. Horrible. Bon, elle était très comme ça, mais en même temps, je sais qu'elle a ressenti elle aussi des choses et que, d'ailleurs, elle s'est beaucoup plainte aussi de l'absence de soutien de l'agence qui, en fait, était un peu avec elle spéciale aussi. Et donc, là, le médecin me dit, écoutez, faut changer. Et là, soulagement absolu, bah, parce que on la sentait pas avec elle. Et puis, bah, nouveau départ. Ok, très bien. Oui. Donc là, j'accélère un peu, assez rapidement, quand même. Match avec, même agence canadienne, nous match avec une nouvelle mère porteuse, jeune, tout début, Alors, là aussi, un peu spécial dans leur relation, mais bon, c'est juste qu'on n'est pas des mêmes mondes. Mais par contre, très volontaire. Alors là, c'était très différent. Très volontaire, très, c'est super, on va y aller. Donc, nouvel espoir, été 2018. Elle va faire son screening en septembre 2018. Et, donc, quatrième tentative pour nous en octobre 2018. Là, c'est transfert annulé quelques jours avant. Parce que, donc, pour ça, manque de bol. C'est pour ça que ça ne peut pas arriver à quelqu'un d'autre. Elle se révèle diabétique. 3 jours avant l'insémination.
À
25 ans. Et en fait, ça a été déclenché pour elle. C'était, en gros, les médicaments qu'elle a pris pendant le mois qui préparait le transfert. Elle a eu une drôle de réaction. Ouais. Donc, du coup, examen plus poussé. Manifestement, il faut croire qu'il n'y avait pas eu de test avant. Mais surtout, les médecins nous ont dit, vous savez, la veille du jour, on est diabétique, on n'est pas diabétique. Donc, elle pouvait très bien ne pas l'être dans ses premiers examens. Mmh. Et donc, bon, bah là, évidemment. Alors, évidemment, non. Mais pour elle, comme pour nous, désolé, transfert annulé. Et surtout, on arrête.
Bah oui, bien sûr.
Et c'est là où on rencontre de nouvelles difficultés avec l'agence. L'agence nous dit, oh là 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 là, écoutez les enfants, les garçons, vous n'allez pas faire les difficiles. On va prendre 2 mois le temps qu'elle mette en place son programme d'insuline. Et non, on vous rematche pas. Alors bon, déjà, c'est simple. La clinique américaine nous a dit, ah bah non, nous on ne fait pas. Et puis nous non plus. Je veux dire, on ne voulait pas faire prendre des risques supérieurs à ceux d'une grossesse à quelqu'un pour qui c'était pas, et à l'enfant, alors que c'était pas pour elle. Je veux dire, je peux tout à fait comprendre qu'une femme, et un couple d'ailleurs, décide de faire des risques pour soi, bah voilà, on assume pour son enfant et son corps et tout ça. Mais nous, impossible. De toute façon, déjà, je pense qu'elle aurait pas voulu, elle voulait pas. Enfin, nous, c'était clair. Mais sauf qu'on a dû assumer c'est une évidence qu'on peut pas continuer avec elle, on est un couple relou.
Enfin, aux yeux de l'agence.
Aux yeux de l'agence. Qui donc repassons à nouveau tout en dessous. Et là, première traversée du désert, fin 2018, où on sentait qu'on n'était absolument pas la priorité de l'agence.
Oh mon Dieu.
On sentait que la tension, je vais utiliser des mots qui peuvent ou choquer ou être exploités par les anti-GPA, mais qui n'écouteront peut-être pas ton podcast.
J'aimerais bien qu'ils écoutent.
Mais t'as raison, ils devraient. La tension du marché de la GPA en termes d'offres et demandes, donc demandes, nous, les parents, offres, mère porteuse au Canada, était explosive à ce moment-là au Canada, c'est-à-dire qu'on avait des délais d'attente de folie et donc encore plus une pression. Et là, on nous proposait, alors avec tout le respect que je dois aux femmes qui pourraient avoir les mêmes critères, mais on nous a proposé, nous, notre seul critère, c'était une femme qui était en couple. Parce qu'on s'était dit, déjà, vu que toutes les mères porteuses ont des enfants, déjà, bah, gérer des enfants, c'est difficile, gérer une grossesse, c'est difficile, gérer des enfants et une grossesse pour quelqu'un d'autre, c'est difficile. Alors si en plus, t'es tout seul, laisse tomber. Et là, on nous propose, après 2 mois encore d'attente, une femme de 43 ans, séparée. Et on s'est dit, c'est pas possible. C'est terrible ce que je vais peut-être dire, mais on est dans une recherche de performance. D'abord, parce que de le temps passé, l'argent commençait à dépenser pour nous en plus, parce qu'on vous annonce un budget GPA au début, on sait que c'est pas sûr, mais c'est comme moi dans mon métier, j'annonce un budget, mais il peut y avoir
Des
imprévus. Et là, on a commencé à les cumuler parce qu'à chaque fois, bien sûr, qui dit transfert dit voyage de la mère porteuse du Canada en Californie avec son mari pendant 3 jours et nouveau frais de transfert. Bon, c'est normal, hein, mais c'est prévu en plus. Et donc là, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas, on voit bien qu'ils veulent nous caser quelqu'un pour dire, oh, ça suffit, on va les caser ceux-là. Et donc là, on prend la décision hyper difficile après un an et demi de changer d'agence. On tente pendant quelques semaines une petite agence nouvelle qui commençait à naître au Canada, mais qui avait le même problème de, alors meilleure relation, mais même problème de disponibilité. Et donc là, l'hiver 2018 a été dramatique parce que on voulait plus en parler. En fait, on ne parlait plus de la GPA parce que pendant ce temps, nous, on était tous de côté. Et en fait, se dire tous les deux, allez, on n'en parle plus pendant deux mois, était un soulagement quelque part. Donc, on n'en parle plus.
Parce que c'est quand même quelque chose qui vous en parlez pas tous les jours, mais qui est présent. Et même déjà, ça faisait quoi,
un an et demi. Voilà, ça faisait un
an et demi. Et cette accumulation d'échecs commence quand même à peser. Et puis, vous avez toujours votre esprit qui est dedans. Et c'est vrai qu'on a eu besoin de faire un break à un moment parce que, un, à un moment, on ne trouvait pas de solution, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et qu'on a eu besoin de souffler. Ce moment-là.
On a bien soufflé autour de nous.
Et on voyait tous nos potes qui étaient
ça, là,
qui eux, tout roulait. Et c'est là où on a fait un break d'ailleurs.
C'est là, on a un peu rompu les liens, comme des gens qui voient plus leurs copains, parce que donc l'association dans laquelle on faisait partie, donc la PGL, organisait, je sais plus si ça se fait toujours, mais mettait en place des groupes de parole de pairs qui étaient plus ou moins, pas tout à fait, c'était fait exprès, mais plus ou moins en parcours en même temps, mais à différents stades. Et donc nous, on avait un groupe de parole super, et qu'on avait d'ailleurs, la première réunion de ce groupe de parole qui avait donc eu lieu tout au début de notre parcours chez nous, on avait reçu tout le monde chez nous, et on était les plus avancés, c'est-à-dire qu'on les avait reçus tout le monde en disant alors chacun fait son petit tour de table. Nous, on partait aux États-Unis pour notre don de sperme 10 jours après, donc c'était ça y est, on est lancé. Alors qu'il y en a d'autres qui étaient, on n'a pas encore réfléchi, on n'est pas encore paxé, on ne sait pas encore qui va donner le sperme. Nous, tout était clair. Ça d'ailleurs, c'était une discussion. Parmi tous les obstacles quoi, que le don de sperme qui fait le don, qu'on n'a jamais eu, c'est très clair pour nous et tout. Et donc ça avançait. Et là, on commençait à avoir des gens qui attendaient des bébés, des premières naissances, des gens qui en un an avaient eu le temps de faire premier contact, premier transfert, naissance.
Ouais.
Donc, à trouver ça difficile de se voir, parce que tous les gens, même si ça part d'un bon côté, vous dites mais ça va marcher. Et vous savez, moi j'ai fait des liens quand j'ai fait ma thèse. Je me souviens, quand j'ai fait ma thèse, on n'aimait pas entendre que d'autres galéraient. C'est-à-dire qu'on s'entoure de gens qui réussissent, mais quand d'autres vous disent « là, je suis bloqué dans mon chapitre 3 de ma deuxième partie, je suis bloqué, ça fait deux mois que j'avance plus », ça réveille les angoisses, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, les gens avaient un discours très « mais ça va marcher », mais quand on était « ok, on va vous parler de ce qu'on ressent à l'un », il n'y a pas d'écoute. Et ce qui est normal, les gens sont dans leur process, ils ne sont pas là pour entendre dire que ça peut galérer, que ça peut être difficile. Et donc, on n'avait pas trop d'écoute, et puis nous, ça devenait invivable de nous réjouir pour les gens qui restaient. Donc, on a pris du recul et de la distance avec ces gens-là, qui est jamais revenu. On sentait arriver, parce que pour l'instant, notre entourage, c'est que l'entourage lié au réseau, à la communauté LGBT qu'on s'était faite autour de ça. On n'avait pas encore de nos amis à nous dans le process. Or, un de nos couples d'amis s'y mettait et commençait à nous poser des questions, parce que moi, j'avais en plus la casquette avocat. Donc on posait des questions. Alors pendant cette période-là, j'ai arrêté tous les dossiers. Donc en matière d'expérience de dossier GPA, moi j'ai rattrapé ça depuis un an et demi parce que je me mettais en retrait de tout et la plupart du temps j'expliquais aux gens parce que forcément avec ma visibilité dans la communauté et étant j'ai des consoeurs avocates mais il y a moins de confrères garçons. Et donc, j'étais assez vite ciblé par la communauté. « Bah tiens, lui, il va faire une GPA. » Bon, pas très bien, on a envie de confier son dossier. Et donc, j'étais obligé d'expliquer pourquoi moi, spécialement moi, je leur disais non. Je leur disais « C'est pas possible, je n'arrive plus à faire ces dossiers-là. » Alors quand techniquement, je veux dire, il n'y a pas de problème. La GPA, ce qu'on nous demande de faire, ce sont les adoptions ou tout ça. Je veux dire, je pouvais le faire même en étant déprimé. Mais c'était impossible de m'en occuper. À tel point, je me disais « J'espère que je divorcerai jamais, vu que je fais exclusivement le droit de la famille. » Si un jour je divorce et que je suis plus capable de faire le divorce des autres, je vais faire faillite. Enfin bon, ça c'est. et donc voilà, le recul aussi avec nos familles, parce que nos familles quand même, on avait fait le choix de les impliquer dans le process depuis le début. Donc même si on ne disait pas aux gens, attention demain on a une insémination, ne serait-ce que pour pouvoir garder le plaisir de l'annonce, bah moi je le disais systématiquement après. Donc mes parents apprenaient en même temps qu'il y avait eu une tentative et qu'il y avait un échec. Et les gens là aussi commencent eux-mêmes. Alors c'était pas à ce moment-là, c'était plus tard parce que on n'est pas du tout au bout de nos échecs. Les gens commençaient à avoir un discours, mais bon, il y a et ça va marcher et on sentait que certains, nos parents notamment, auraient peut-être été soulagés à un moment-là qu'on arrête. Mais je pense pour nous, pour notre souffrance, quoi.
Mes parents ne comprenaient pas pourquoi.
Donc là, fin 2018, donc down, et moi, à un moment, je prends conscience que ce n'est pas qu'une question de délai, ce n'est pas bon, on va mettre du temps à trouver la mère porteuse, mais potentiellement, il n'y en aura pas. Parce qu'il n'y a pas assez de mères porteuses au Canada et qu'on ne sera jamais mis en avant. Donc en fait, ça ne marchera pas. Et donc là, on prend le choix difficile parce qu'il y a un côté remise en cause complète de basculer et de lâcher le Canada pour aller aux États-Unis.
Ce qui veut dire,
ce qui veut dire, non seulement tout ce qu'on a dépensé au Canada est perdu, mais on va redevoir dépenser beaucoup plus aux États-Unis parce que c'est beaucoup plus cher. Mm-hmm. Donc là, angoisse, comment on va faire pour trouver l'argent? Parce qu'on l'avait pas. Donc on a fait des emprunts à la banque, des emprunts à la famille, tout ça. Et on recommence. Donc on recommence pour la troisième fois le choix des agences, le choix de mère porteuse, parce que malgré tout, il faut quand même s'investir. Le seul truc qui, pour l'instant, ne bougeait pas, c'était la clinique. On avait confiance. Et ils nous disaient, écoutez, vous avez encore plein d'embryons. Il n'y a aucune raison. Donc les embryons, ils attendent. Donc là, on laisse passer l'hiver 2018-2019. Et début 2019, allez, c'est parti. On redemande à des copains. C'est con, mais à des copains avec qui, pour qui ça a marché? Quelle agence? Alors que je veux dire, l'agence, c'est pas parce que l'agence est sympa que ça marche. Enfin,
les
réflexions qui sont,
mais là, nous échaudés un petit peu par notre passé canadien, on voulait aussi une agence qui était meilleure, on va dire, dans la relation avec les parents d'intention, plus à l'écoute, parce que clairement, il y a un petit côté psychologue hein, derrière. Nous, on attendait de l'agence, un peu de soutien et surtout de compréhension des difficultés, surtout.
Ouais.
Et sauf qu'on a du coup la chance de tomber sur donc une agence qui nous avait été conseillée par des potes qui était à Las Vegas. C'est ça,
une agence de Las Vegas qui a fermé depuis.
Qui a fermé depuis et on a trouvé en face une nana formidable, enfin deux nanas, la directrice et son associé ou son employé, je ne sais plus, formidable, très à l'écoute. Moi, je sais que les premiers liens avec cette agence, ça nous a reboosté alors.
Ouais, ça nous a reboosté. Et il y a un côté États-Unis, là aussi, ça peut paraître choquant, mais service client. Où du début à la fin, même parmi nos galères futures, eh ben je vais en dire la suite américaine au prochain épisode. Voilà, c'est la fin de l'épisode canadien et on parlera de l'épisode américain la prochaine fois.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.